Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni éthique ni responsable, le podcast qui revient sur des expériences scientifiques et sociales qui se sont mal passées et dont on se demande si elles sont vraiment nécessaires. On le sait, les animaux sont une partie importante des essais scientifiques. Avant de sortir un médicament, un vaccin ou tout autre produit dont il faut tester les effets secondaires, les chercheurs expérimentent d'abord sur des animaux de laboratoire pour en étudier l'efficacité, mais aussi les potentiels effets secondaires. Cela peut s'apparenter à de la torture sur animaux, certes, mais la communauté scientifique s'est accordée sur le fait qu'il était sûrement préférable de tester les produits d'abord sur des animaux plutôt que sur des humains directement, sans en connaître les effets. Du moins tant que la science n'aura pas présenté d'autres solutions moins barbares. On a l'habitude de voir que les expérimentations se font le plus souvent sur des souris, des rats, des singes, voire même des insectes. On entend plus rarement qu'une expérience a été faite, disons, sur un éléphant. Laissez-moi vous parler de Louis Julian West et de Chester M. Pierce.
One man crazy. Three very sane spectators.
Louis Julian West, surnommé Jolly, est né en 1924 à Brooklyn. Il est issu d'une famille d'immigrants russes très modeste. Malgré le peu de moyens, ses parents le poussent à faire de belles études et de rendre sa famille fière de lui. La médecine l'intéresse et il veut s'inscrire à la faculté de Wisconsin. Mais la guerre fait rage et il s'enrôle dans l'armée américaine pour casser du nazi. Après la fin de la guerre, il finit ses études et devient diplômé de sciences psychiatriques en 1948. La guerre aura laissé des traces sur lui, comme sur bien d'autres soldats. Dans un premier temps, il va s'intéresser à l'église de la scientologie et de ses méthodes d'hypnotisation à des fins de manipulation mentale. Il fait plusieurs écrits à leur sujet, dénonçant leurs effets néfastes sur leurs adeptes. Il va bien entendu se les mettre à dos, mais cette première incursion va lui donner l'envie de s'intéresser au thème de la manipulation mentale et de la torture psychologique. Il va alors étudier le sujet sur ses anciens camarades soldats, notamment au sein de la base de l'US Air Force de Lackland, au Texas, où il observera des vétérans ayant subi des actes de torture et des lavages de cerveau en Corée. Il va en devenir un expert en manipulation mentale, des connaissances qu'il va utiliser tout au long de sa carrière. Il va alors étudier et dénoncer les pratiques de sectes et comment leurs gourous manipulent des personnes en détresse émotionnelle pour arriver à leur fin. Lorsqu'en 1969, il prendra la tête de la branche neuropsychiatrique de UCLA, il étudiera l'alcoolisme, les drogues, les sectes, la torture psychologique et la culture hippie. Et la culture hippie, c'est ce qui va nous amener à notre histoire du jour. Mais n'oublions pas notre second larron, Chester M. Pierce. De son nom complet Chester Middlebrook Pierce, il est né en 1927 à Glen Cove dans l'état de New York. Chester est le premier psychiatre noir à enseigner au Massachusetts General Hospital. À l'université, il fit partie des équipes de football, de basketball et de lacrosse. Il fut aussi le premier noir à jouer un match universitaire en dessous de la ligne Mason-Dixon dans une équipe entièrement blanche. La ligne Mason-Dixon est la ligne symbolique qui séparait les États du Nord, abolitionnistes, et les États du Sud, esclavagistes. Chester M. Pierce est plus intéressé par le lien entre conditions physiques et états psychologiques. Il va par exemple étudier le lien entre sport et gestion du stress, ou encore les liens entre race, sexe, classe sociale, obésité et âge sur la pression sanguine et la colère refoulée. Bref, le monsieur est touche-à-tout et il sera même consultant dans le programme pour enfants Sesame Street. Et comme il touche à tout, il s'intéresse à tout, quand Jolly lui propose d'aller au zoo, il accepte. Nous sommes dans les années 60 et une nouvelle drogue suscite l'attention des Américains, le LSD. Le LSD, ou diéthylsergamide, oh boy, tient son nom de l'allemand, et je vous épargnerai ma prononciation. C'est un dérivé de l'ergot de seigle, un champignon qui pousse sur certaines céréales, et d'ailleurs si vous voulez une histoire bien française dans le genre, je vous conseille d'aller vous renseigner sur l'histoire du petit village de Pont-Saint-Esprit, qui en a tenu une bonne couche. La molécule sera synthétisée en 1938 à partir d'autres types d'ergot de seigle, puis en 1943 par Albert Hofmann et Arthur Soll pour la société Sandoz, qui, elle aussi, aura une importance dans notre histoire. En ce qui concerne les effets, on les connaît bien désormais. effets psychédéliques, hallucinations, extrême stimulation du cerveau, bref, ça retourne le cerveau avec de jolies couleurs. Mais dans les débuts, on ne sait pas trop quels sont les effets à court ou long terme, et si c'est dangereux, et si ça peut servir à la torture ou aux soins. On a alors trois manières d'étudier le sujet. On va avoir une partie des scientifiques qui vont étudier ces potentiels effets bénéfiques, notamment pour traiter les syndromes de stress post-traumatique des soldats revenant de la guerre. C'est dans cette catégorie que nos deux protagonistes du jour vont se situer. La deuxième catégorie est principalement financée par la CIA. Oui, je sais, ça sonne comme un début de théorie du complot foireuse, mais pourtant c'est vrai. La CIA a massivement financé des laboratoires pour faire des recherches sur le LSD en tant qu'arme potentielle. Et on aura largement l'occasion d'y revenir, croyez-moi. Le dernier groupe, ce sont les hippies, qui sont scientifiques de rien du tout, mais qui vont participer à propager l'intérêt autour de cette drogue et qui vont seulement l'utiliser à des fins récréatives. Justement, c'est cette utilisation massive d'une drogue qu'on connaît très peu et qui va faire des ravages, qui va conduire les États-Unis à en interdire la vente et la consommation en 1967. Alors pourquoi Louis Jolyon West et Chester M. Pierce étaient intéressés par le LSD? Eh bien, quelques recherches avaient déjà été conduites, et il en résultait que le LSD pouvait imiter les symptômes de maladies psychiatriques. Et ça, c'est dans leur champ d'intérêt. Là où ça devient cocasse, c'est qu'ils veulent faire l'expérience sur... un éléphant. Pourquoi un éléphant et pas un singe ou une souris? Déjà parce que ça a déjà été fait, et puis parce que l'éléphant est un animal extraordinaire. Il est très intelligent, a une espérance de vie très longue, il est capable d'avoir des interactions sociales complexes avec les autres membres de son groupe, l'éléphant a des capacités psychologiques et intellectuelles qui se rapprochent de l'humain. Il peut rentrer dans une phase qu'on appelle le must. C'est un état observé chez les mâles et qui revient périodiquement. On y observe alors une sécrétion ressemblant à du goudron, appelée frontaline, qui lui sort des orifices temporaux juste devant les oreilles. Pendant cette phase, l'éléphant montre un comportement anormalement agressif, une augmentation des hormones de reproduction et de la testostérone. Bref, c'est une crise d'ado de l'éléphant, mais qui peut se reproduire tout au long de sa vie. Le phénomène est assez méconnu et peu étudié par les zoologistes, car il est assez rare et bizarrement personne n'est assez chaud pour aller étudier un éléphant dopé à la testostérone qui veut casser des gueules. Donc Jolly et Chester veulent utiliser le LSD pour tenter de déclencher le must artificiellement et de prélever un peu de frontaline. C'est là qu'un troisième compère arrive dans l'histoire, Warren Thomas, le directeur du zoo d'Oklahoma City, qui les autorisera à conduire l'expérience sur un éléphant du zoo. Ce pauvre bougre d'éléphant, ce sera Tusco, un éléphant asiatique mâle de 14 ans. Et ce sera la société Sandoz qui fournira le LSD. Vous vous souvenez, c'est la société qui a synthétisé le produit pour la première fois. Nous voilà le 3 août 1962. Un premier problème va se pointer. Quelle dose de LSD administrer à la bête? On sait quelle dose donner à un humain, entre 100 et 200 microgrammes pour avoir des effets légers, et un peu plus de 200 microgrammes pour commencer à partir en bon trip des familles. On regarde alors ce qui a déjà été fait sur d'autres animaux plus résistants que les humains. 1 mg pour rendre temporairement aveugle un macaque, 6 mg pour tuer un chat. Mais pour un éléphant, assez massif un éléphant. Et ce bon Warren Thomas a de l'expérience pour ce qui est d'endormir les éléphants afin de les soigner. Et un éléphant, c'est costaud. Il leur rappelle donc que les dosages en tranquillisant sont massifs. Bon, c'était la première chose à ne pas dire. Parce que Jolly et Chester sont plutôt adeptes du « go big or go home ». Ce serait dommage de sous-doser et qu'il ne se passe rien, n'est-ce pas? Donc il lui injecte 297 mg de LSD dilué dans un chouïa d'eau directement dans le muscle. Pendant environ 3 minutes, Tusco se mit à courir autour de son enclos, puis s'arrêta soudainement. Il commençait à montrer des signes de déséquilibre, ses mouvements n'étaient plus coordonnés. Une femelle éléphant était aussi présente, Judy, 15 ans, et il s'est aperçu que quelque chose clochait. Elle s'est donc approchée de son copain pour lui apporter son aide. Tusco a commencé à se balancer et il était de plus en plus difficile pour lui de se tenir debout et en équilibre. Seulement 5 minutes après l'injection, Tusco perdit définitivement l'équilibre, tomba sur le côté, déféqua et fit une crise d'épilepsie. Tout son corps se mit à trembler frénétiquement, ses yeux se retournaient dans leurs orbites, sa gueule était grande ouverte et il montrait des signes de détresse respiratoire. Sa langue tourna au bleu. Les deux scientifiques tentèrent de le réanimer grâce à plusieurs injections de barbiturique, mais 1h et 40 minutes après l'injection de LSD, Tusco décéda sous les yeux de Louis Jolyon West, Chester M. Pierce et Judy l'éléphante. L'expérience fut filmée mais jamais montrée au public. Les bandes sont restées archivées secrètement à UCLA. Une autopsie fut réalisée sur l'animal, démontrant que Tusco était mort d'asphyxie suite au gonflement de son larynx obstruant ses voies respiratoires. L'autopsie démontra aussi que l'animal n'était pas passé en état de must. En même temps, il n'a pas vraiment eu le temps. L'expérience est donc un échec cuisant. Sauf que maintenant, deux autres problèmes se posent. D'abord, il faut expliquer comment on se retrouve avec un éléphant mort sur les bras. Pour ça, ça va aller très vite. Les deux chercheurs vont sortir un article pour la revue Science, article qui me sert d'ailleurs de base d'écriture. Et pour expliquer la mort de l'éléphant, ils vont juste écrire que, je cite, « Il apparaît que l'éléphant est extrêmement sensible aux effets du LSD. » Point. À aucun moment, la question du dosage colossal n'est évoquée. Mais un éléphant mort dans un zoo suite à une expérience scientifique, ça ne passe pas inaperçu aux yeux de la population locale, et surtout pas aux yeux des journalistes avides d'articles à sensation. Ces derniers vont appeler le zoo sans relâche pour avoir des informations croustillantes. Le zoo resta assez muet sur l'événement, ils devaient se douter que ça allait sentir la bouse pour eux. Qu'à cela ne tienne, si nous n'avons pas d'informations, nous n'avons qu'à en inventer, se disent les reporters. L'histoire va alors faire la une des journaux et tabloïds, certains très peu scrupuleux. À lire les articles qui en ont découlé, on a de tout et de n'importe quoi. En cause, le peu d'informations que les deux scientifiques ont données à la presse. Non seulement les journalistes ont en rajouté des caisses et inventé certains détails pour vendre du papier, mais certaines explications, sûrement trop scientifiques et pointues, ont été mal comprises par les rédacteurs, ce qui a donné des contresens aberrants. Jusqu'à ce que l'histoire mentionne, faussement bien sûr, que les deux chercheurs étaient eux-mêmes sous l'emprise du LSD pendant l'expérience et que le tout était un joyeux bordel d'incompétence qui mena à la mort d'un éléphant. Et cette fausse information, on la doit principalement à l'église de Scientologie. Comme quoi, tout est lié. L'église de Scientologie, dans un but de revanche contre Louis Jolyon West et contre la profession de psychiatre de manière générale, attaqua les deux personnages, les qualifiant de « hors de contrôle », arguant que les deux étaient sous l'influence de LSD quand ils ont autopsié la bête, autopsie ressemblant plus à une boucherie d'après ce qu'ils avaient vu de l'enregistrement. Sauf qu'enregistrement il n'y a pas, l'autopsie n'a jamais été filmée. Devant ce tollé populaire, la communauté scientifique s'est sentie l'obligation de commenter, principalement pour dire que les deux chercheurs étaient une honte pour la profession. Ils ont été jugés comme étant étourdis, c'est le mot gentil, d'avoir aussi mal jugé le dosage approprié, parce que clairement, ils l'avaient fait à la louche. Par contre, ils sont devenus des stars dans la contre-culture hippie et sont très longtemps restés connus pour avoir été les deux andouilles qui ont donné du LSD à un éléphant. Mais West n'en avait pas fini avec les éléphants. Et j'ai bien dit les éléphants. En 1969, il rejoint l'université de UCLA et Ronald Siegel, professeur de psychopharmacologie, était intéressé par l'expérimentation. West voyait déjà une certaine utilité dans sa première expérience. Il voulait utiliser le LSD pour décimer les troupeaux d'éléphants en Afrique. Alors, j'ai pas trouvé de source corroborant, mais apparemment, à cette époque, il y avait la question de la chasse aux éléphants en Afrique liée à une surpopulation de l'espèce. Heureusement, personne ne l'a laissé faire. En attendant, il voulait retenter la première hypothèse, maintenant qu'il avait plus d'expérience sur le sujet et que d'autres études avaient été menées entre-temps. Siegel était d'ailleurs un expert sur les effets des hallucinogènes sur les animaux. Siegel a donc eu accès à deux éléphants, un mâle et une femelle. La rumeur veut qu'il a dû signer un accord l'obligeant à remplacer les éléphants s'ils venaient à mourir. Personne n'avait oublié la première histoire, visiblement. Cette fois-ci, point d'injection. Siegel mélangea le LSD à l'eau de l'abreuvoir des animaux. Cela permettait une absorption plus progressive de la drogue par l'organisme. Le dosage a aussi été revu largement à la baisse, bien entendu. Les éléphants reçurent une première petite dose de 0,003 mg par kilo et un dosage fort d'1 mg par kilo. Lors du dosage bas, Siegel observa quelques petits changements comportementaux comme des balancements d'avant en arrière et sur les côtés, des petits couinements et des secousses de tête. À la haute dose, les éléphants montrèrent d'abord un comportement désinhibé, agressif, avant de se calmer et de devenir des larves. L'éléphant mâle en a aussi profité pour se prélasser dans le foin. 24 heures plus tard, les deux éléphants retrouvaient un comportement totalement normal et une bonne histoire à raconter aux congénères. Après cette expérience, Siegel a eu plusieurs conclusions. D'abord, il a douté que ce soit le LSD seul qui ait tué Tusco, mais plutôt le haut dosage de celui-ci qui l'a rendu toxique. Ensuite, concernant l'hypothèse de départ, la prise de LSD n'a pas déclenché un état de must chez les éléphants. Alors, ces expériences en valaient-elles la peine ? Eh bien, elles ont conduit à la mort d'un éléphant, à la déchéance professionnelle de deux chercheurs fantaisistes mais talentueux, et scientifiquement parlant, on n'a pas appris grand-chose de plus sur les effets du LSD qu'on ne savait déjà grâce à d'autres recherches. À vous de vous faire votre propre opinion. Il en résultera quand même deux choses. Une chanson, The Unfortunate Elephant, du groupe Tusco Fatal, qui, comme vous l'aurez deviné, rend hommage à Tusco, et on suppose que l'expression « voir des éléphants roses » provient en partie de cette histoire. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. S'il vous a plu, je vous serais très reconnaissante de le faire connaître autour de vous et de le partager. En effet, qui n'a pas envie de connaître l'histoire des éléphants qui ont pris du LSD ? Vous pouvez aussi me laisser vos commentaires et vos belles étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire ni éthique ni responsable. On the guest list at the beach.